L'humain, créateur de sens ingénieux, façonneur de beauté, se prend de plusieurs manières pour parvenir à ses fins et mettre de la couleur dans sa vie. Et l'art en soi est certainement, selon moi, l'accomplissement le plus honnête lorsque c'est fait avec passion. C'est la formule qui permet à l'être humain de lancer son être dans le firmament pour tous. Et l'art est si près de nous peut-être parce qu'il nous parle à un niveau primaire. Hein, l'art s'attaque à nos sens. Et la musique, elle, parle à l'ouïe. Et elle teint notre background auditif et nous emporte avec elle de plusieurs façons. Mais quelles sont ces techniques directes? Comment nous séduit-elle si facilement et nous envoûte? C'est quoi l'historique de cette musique-là? Et quelle est sa place parmi nous? Mais en revanche, qu'ont l'auditeur et le musicien à acquérir de ce processus? Et quels sont les risques associés, peut-être, à cet univers qui tend à se digitaliser? Je suis Raphaël Gagné et vous êtes dans ma chambre d'écho.
Lá vem ela, estou de olho nela. Opa, lá vem ela, estou de olho nela. Não me importo que ela não me olhe. Não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou. Eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de vê-la passar. Oba, oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. A noite é linda.
C'était Jorge Ben avec Oba la Vimiela de l'album Forza Bruta qui est paru en 1970. Évidemment, on se rend compte qu'on entre justement dans une chanson qui est d'une culture différente et on plonge dans un artiste qui fait la fusion entre la samba et le soul de l'Amérique latine, évidemment. Et le Brésilien propose des accords, des cadences et un feel complètement à l'opposé de ce qu'on connaît en Occident peut-être ou de ce qu'on croit connaître. Les mélodies brûlantes accompagnées de guitares rythmées, nous jouant des airs de bossa nova, un style qu'on enterre avec les crooners et qui peut nous donner bien plus, évidemment. L'album au complet est un projet enflammé, je dirais, qui est fier et vivant. On célèbre la vie dans la philosophie intense latino. Et c'est un aperçu de ce que peuvent offrir les musiques d'ailleurs, plus lointaines, qu'on a tendance à délaisser peut-être, parce qu'il faut rechercher plus pour leur accéder. Alors voilà, une chanson extrêmement intéressante de Jorge Ben. Pour commencer, il me semble pertinent, évidemment, de circonscrire ce qu'on entend lorsqu'on parle de musique. Et donc d'examiner peut-être certaines technicalités de cet art sublime. Commençons avec une définition pour se donner naturellement un carré de sable dans lequel on peut jouer, mais avec certaines délimitations claires. Et donc, lorsqu'on parle de musique, on parle de l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Et avec ce son-là, il crée l'œuvre musicale et produit à travers cet art. Donc, c'est la science des sons qui est considérée sous le rapport de la mélodie et du rythme de façon primaire. Et on y reviendra, évidemment. Où est l'origine de la musique? Et est-elle humaine ou naturelle, peut-être? Animale? La musique appartient donc-t-elle à l'homme? Parce qu'on la voit souvent comme une création purement humaine, mais peut-être un angle intéressant à apporter à tout cela. Considérons le chant de l'oiseau ou d'une baleine. Il y a évidemment une structure, et c'est dans le but de s'exprimer. Il y a communication au centre de ses cris, de ses chants. Mais est-ce profondément la musique au sens humain? Cet être humain semble peut-être toutefois aller un peu plus loin que l'usage de la musicalité pour une communication brute, animale. Il va plus loin que le simple avertissement du danger, l'annoncement de la présence ou pour la reproduction, dans le cas des oiseaux. L'homme s'est emparé de la musique et l'utilise à des fins plus complexes, pour se définir, pour créer quelque chose de nouveau, au lieu de ne répéter que les mêmes patterns audio. Il y a une progression certaine. Mais c'est intéressant tout de même de se rappeler la pertinence des vocalises animales pour la communication, qui peuvent sembler musicales, orchestrées presque en chanson. Parlons de la voix humaine et des premiers instruments de cet historique de la musique au tout début. On retrace le plus vieil instrument conçu par l'homme sous la forme d'une flûte datant d'environ 35 000 ans, si on est conservateur. Donc, certains rapports remontent jusqu'à 43 000 ans, mais disons 35 000 ans pour être, comme je l'ai dit, safe. On continue. Il y a 6 000 ans, les Égyptiens utilisent déjà la harpe et la flûte, qui est évidemment cette flûte-là, est plus raffinée que celle retrouvée 30 000 ans auparavant qui était conçue à l'époque avec un os animal. Donc déjà là, les Égyptiens construisent des instruments un peu plus complexes. Il y a 6 000 ans de ça tout de même, c'est assez loin. Il y a 4 500 ans, les Danois, eux, inventent une trompette primitive. 1000 ans plus tard, les Hittites créent la guitare. Donc il y a beaucoup d'instruments et ça remonte assez loin dans notre histoire. L'instrument brut même. On peut creuser plus loin que ça, on le verra. Mais ça reste difficile peut-être de savoir clairement si la musique est née avec l'homme ou par après de son invention. On pense au chant peut-être qui semble si instinctif dans toutes les cultures humaines lorsqu'on les observe. Le chant, qu'il soit spirituel ou non, ou en célébration, semble être omniprésent. On pense aussi à la facilité d'utiliser des objets pour obtenir un instrument à percussion. On peut fabriquer un instrument à percussion sans technologie avancée. Il suffit d'avoir une roche ou taper dans ses mains. Et on a presque un instrument à percussion déjà avec rien et pas de progrès. Mais évidemment, il n'y a aucune notation théorique qui peut remonter à nos racines il y a 200 000, 300 000 ans. Donc on ne saura peut-être vraiment jamais quant à la date la naissance de cette musique pour l'être humain. Donc évidemment, ça me laisse perplexe quant à la réelle naissance de la musique qui me semble être incrustée dans notre identité même pour célébrer, comme je l'ai dit, communier, rassembler, faire usage d'éléments biologiques primaires pour orchestrer, créer de l'ordre, structurer de la beauté à travers le son. C'est peut-être instinctif pour l'être humain que d'apprécier et de concevoir de la musique. Faisons une historique des civilisations et de leurs compositions musicales pour peut-être en savoir un peu plus, nous donner un angle supplémentaire à cette historique musicale. Évidemment, on pourrait décortiquer toutes les traditions d'antan, hein, ce qui a trait à la musique dans toutes ses différentes formes et époques. Hein. On pense à la percée musicale en Grèce antique et les racines classiques de la musique. On pense peut-être aussi au Moyen Âge, avec son instrumentation immanquable et ses chants religieux. Ou encore à la Renaissance qui vient après et qui renchérit sur ces tendances-là. Et donc, on se rappelle aussi de cette Renaissance qui amène l'imprimerie et qui amène aussi du même vent une facilité pour la composition et la notation en général, et qui va générer par après la première étape de la musique classique, qui est le baroque. Alors évidemment, on regarde la Grèce avec une pièce qui date de 2100 ans, on regarde dans le Moyen Âge avec une pièce qui date de 700 ans, et la Renaissance ensuite avec une pièce qui date de 400 ans. Et on se rend compte tout de même qu'il y a une richesse incommensurable dans ces périodes musicales qui tendent peut-être à pâlir devant la musique classique et contemporaine dans notre tradition occidentale. Mais c'est tout de même plus raffiné peut-être qu'on pourrait se l'imaginer. Donc c'est peut-être un angle plus historique que j'amène. Mais voilà quelques grandes lignes qui nous permettent d'avancer plus loin dans notre analyse moderne de la musique. Ça me semble important de le présenter. C'est évidemment extrêmement important lorsqu'on parle de musique humaine, et j'en ai traité un petit peu plus tôt, mais de parler de ces instruments-là qu'on utilise pour construire de la musique. Et on commence avec ces instruments acoustiques, qui sont plus près de nous, évidemment. Et on utilise l'instrument fondamentalement pour obtenir de nouveaux sons, pour s'éloigner de l'instrument vocal. Et donc l'instrument est orchestré de manière à générer des sons différents qu'on utilise ensuite dans nos compositions. Il y a 5 types d'instruments primordiaux qui sont classés selon leur mécanisme de fonctionnement, ce qui leur permet de générer un son. Les instruments à bois, qui fonctionnent par la vibration d'une colonne d'air qui est soufflée dans l'instrument. Et ça inclut des instruments qui sont faits en autre matière que le bois, il ne faut pas l'oublier, donc le métal, l'ivoire, par exemple, pour en citer que quelques-uns. Les instruments à bois qu'on peut nommer, classer, par exemple la clarinette, le saxophone ou la flûte à bec. Puis viennent les cuivres, qui sont aussi des instruments à vent et qui fonctionnent aussi par la vibration d'air, mais seulement provenant de la vibration des lèvres du joueur. Et ces instruments-là sont souvent fabriqués en laiton, en cuivre jaune, d'où le nom cuivre, mais aussi d'autres assemblages parfois de métaux de matériaux. Ce n'est pas exclusif, évidemment. Quelques exemples de ces instruments à cuivrer: la trompette, le tuba ou même le didgeridoo. Ensuite, les instruments à cordes, qui eux fonctionnent par le frappement, frottement ou pincement de cordes de nylon et métal principalement, qui sont tendues sur l'instrument. Les exemples évidents, la guitare, que ce soit classique, électrique, basse, et évidemment plusieurs types de guitares, et aussi le violon ou la mandoline qu'on peut nommer. Les claviers suivent, eux qui fonctionnent en fournissant un son suite à l'action des touches sur l'instrument. Le piano fonctionne avec des cordes, l'orgue avec de l'air dans des tuyaux, et le synthétiseur, lui, fonctionne grâce à des circuits électroniques. Et ce sont tous des claviers. Quelques exemples, j'en ai nommé, mais évidemment le piano à queue, le clavecin ou le clavier électronique sont tous des claviers. Et finalement, le cinquième type d'instrument acoustique sont les percussions, qui, eux, nécessairement fonctionnent par le frappement, le secouement et le frottement. Et c'est une grande famille d'instruments qui est peut-être la plus familière ou rudimentaire. Les exemples, que ce soit le triangle, les castagnettes ou même les cymbales, sont tous des instruments à percussion. Mais on a aussi les instruments synthétiques qu'on a inventés par après avec l'avènement d'une technologie plus avancée. Et avec cet avènement-là, évidemment, les possibilités s'ouvrent avec des logiciels qui se spécialisent dans l'imitation et la création de sons nouveaux que le musicien peut lui-même contrôler sur un ordinateur ou, c'est justement, comme je l'ai dit, sur un logiciel particulier. Il faut savoir que l'ordinateur génère le son à travers le langage MIDI. Il semble important de le mentionner. Et donc, quelle est l'utilité de l'instrument en soi, autre que de générer un son? On peut évidemment voir qu'il y a une variété sublime d'instruments. C'est vraiment un coffre au trésor de sonorités que l'homme s'offre à lui. Et oui, on va obtenir des sons nouveaux qui nous éloignent de la simple voix humaine qu'on maîtrise déjà et qu'on a déjà à la naissance. Mais on voit aussi que l'acoustique, lui, offre énormément de choses d'instruments purs et sur lesquels on doit se poser physiquement pour apprendre de ces instruments-là et les maîtriser dans le but créé. Et le synthétique, lui, offre une accessibilité sonore incommensurable dans un espace raisonnable. On n'a pas besoin d'avoir plus qu'un ordinateur ou un clavier simplement pour envoyer des informations à l'ordinateur. Tandis que si je veux jouer du cor français, de la guitare électrique, du drum, du clavier, ça prend énormément de place et c'est très cher, évidemment. Donc, il y a une belle offre dans le synthétique qui devient de mieux en mieux, évidemment, avec le temps, pour une accessibilité à la musique accrue. Donc, le musicien d'aujourd'hui peut mêler ces deux univers immenses, que ce soit l'instrument acoustique ou l'instrument synthétique. Et il a vraisemblablement des choix et des possibilités sonores et d'assemblage infinis. Donc ça, c'est magnifique. Rentrons un peu dans la théorie de ce que compose la musique. Évidemment, j'ai parlé plus tôt dans ma définition de cette musique qui est régie par le rythme, entre autres. Et voyons peut-être, pour commencer, les notes. Et le monde de la musique, lui, suit le monde de la note musicale. Il s'orchestre autour de cette note, de cette sonorité. On sait évidemment qu'il y a 7 notes pures, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et sans aller dans la complexité, on comprend que ces 7 notes-là sont déterminées comme étant des constantes sonores qui sont régies toutes par la vibration, ce qui cause un son. Évidemment, la vibration cause un son dans l'air. Ces notes-là sont stables, reproductibles et sonnent juste à l'oreille. Et ensuite, on en vient aux accords. Il faut comprendre qu'on peut combiner certaines notes pour construire ce qu'on appelle des accords. Et les accords, eux, sont des ensembles précis de notes qui s'assemblent naturellement par leur structure sonore et qui sonnent bien ensemble et composent une harmonie plaisante à l'oreille. On voit déjà qu'avec la note et l'accord, on a une variété impressionnante de ce qu'on peut faire avec ces 7 notes-là, sans compter leur bémol et leur dièse, qui sont des formules de notes un peu plus basses ou un peu plus hautes. On en vient peut-être à composer des mélodies ensuite avec ces accords et ces notes. Donc, on construit des assemblages et on en vient à concevoir des ensembles de sons successifs, ordonnés, qui ont un sens musical et qui viennent satisfaire l'oreille humaine. C'est tout ce qu'on entend par la mélodie. C'est juste un assemblage de notes et d'accords qui sonnent juste en guillemets, évidemment. C'est pas nécessairement plaisant ou romancé comme son, mais qu'il y a un ordre certainement précis dans la mélodie. On en vient au rythme que j'ai mentionné plus tôt. Et le rythme, lui, est simplement l'élément temporel de la musique. Il évoque la durée et l'enchaînement des notes et la succession relative des arrangements d'une pièce jusqu'à sa fin. Et c'est crucial de le mentionner parce que la structure d'une chanson ou d'une composition tient en compte, évidemment, de cette rythmique-là et de cette progression du temps. Donc, on en vient aussi à parler de la durée des pièces, suivant ce rythme-là. C'est une variable supplémentaire à considérer et il y a un choix conscient pour l'artiste à faire quant à la longueur du mouvement qu'il veut concevoir. Et souvent, ça dépend du genre. On pense au métal, au progressif, au classique, au jazz, pour n'en nommer que quelques-uns, qui s'étendent plus par souci de composition un peu plus lente, justement en progression, plus instrumentale, une formule peut-être plus libre, versus ce qu'on peut penser comme le rock, le punk, le pop ou le indie, qui propose une formule souvent plus serrée, en chansons ciblées, autour d'une idée vocale précise. Mais ça dépend évidemment aussi de l'idée de grandeur, de longueur que l'artiste a en tête. Hein. Il y a des longues et courtes pièces dans tous les genres musicaux. C'est pas une règle immuable, évidemment. Parlons du volume ensuite. Et ça, c'est l'art d'assembler la puissance des sons pour concevoir des assemblages dynamiques. On entend tous les instruments positionnés d'une manière vraiment décisive et décidée. Et ça, c'est évidemment aussi un choix de style supplémentaire pour l'artiste. Hein. La puissance et la lourdeur de l'opéra versus la douceur du folk nous ramènent à ce volume-là et à ce choix-là qui est fait. Donc, avec tous ces éléments-là, avec les notes, la mélodie, l'harmonie, la durée des pièces, le volume, la rythmique, il y a aussi la structure qu'on doit tenir compte lorsqu'on fait une composition musicale ou lorsqu'un artiste fait une composition musicale. Et cette structure-là s'ordonne souvent sous la construction d'un mouvement musical qui est ordonné par les notes et le tempo dans une direction artistique qui est voulue, hein, qui est décidée. On ajoute plusieurs instruments qui peuvent se parler entre eux, qui s'envoient des mélodies, qui s'harmonisent, qui se distancent parfois. Et ça, c'est le façonnement humain du son en quelque chose de calculé qui nous parle, cette structure. On y ajoute souvent la voix aussi, on y reviendra, qui estampille comme elle seule peut une humanité propre sur la musique. Donc le musicien orchestre tous ces éléments pour écrire la musique en soi. Mais quelle est la différence entre une chanson et une composition? On entend souvent le terme composition pour le classique et dans le moderne, on parle souvent de chanson. Et la différence est très simple. Toute chanson est une composition, mais pas toute composition est une chanson. On comprend que la chanson est marquée par la présence de vocaux, de textes, du parler humain, alors que la composition est simplement l'organisation musicale de l'œuvre, hein, les notes, etc., sans voix. Plongeons dans l'évolution dans le temps du genre musical, des styles musicaux qui se développent. Jetons un œil au timeline occidental de la musique et l'évolution du style musical, parce qu'on a toujours évidemment tendance à avancer et à rechercher la nouveauté dans l'art. C'est un peu pour cela que les genres musicaux existent et s'amènent avec le temps et qu'on n'est pas stagnant dans l'art. Il y a une recherche de nouveauté, de progression. Chaque petite percée artistique, je dirais même, propulse un peu à chaque fois vers l'avant l'art et la cause qu'elle sert. Et elle commande aussi une direction pour les autres artistes qui suivent. Donc c'est toujours propulsé par ce désir de progrès, de self-discovery, de nouveauté. Donc les genres sont là et caractérisent la musique que l'être humain compose. Commençons après les périodes que j'ai effleurées plus tôt et examinons l'évolution des genres de la musique. Après cette Grèce antique-là, ce Moyen-Âge et cette Renaissance que j'ai énoncée, et qui forge les prochains styles, évidemment. Donc, on commence suite à la Renaissance, et de 1600 à 1750, la musique baroque en Europe apparaît, qui est la première partie de la musique classique, le premier style de l'étiquette musique classique, et ce style baroque, qui est défini par des compositions très strictes, complexe et ornemental, très dense. Vivaldi et Bach sont deux des grands compositeurs qui se marquent dans ce style-là. On suit de 1750 à 1830 avec la musique classique. Il y a l'étiquette classique, mais la deuxième période de la musique classique est dite classique aussi. Donc elle suit le baroque, mais c'est plus léger, c'est plus net. Clair et simple dans l'instrumentation. On pense à Mozart ou à Beethoven, qui se casent en partie dans cette musique classique. De 1830 à 1900, la musique romantique apparaît, qui est la troisième marque de style de la musique classique, qui, elle, amène l'émotion, autant dans le bonheur que dans le malheur. C'est très mélodieux et esthétique. On amène les grands orchestres et les grandes orchestrations. Je nommerais Beethoven aussi dans ce style, encore une fois, parce que sa contribution est un peu nébuleuse, elle se trouve un peu dans les deux styles, dans le classique et le romantique. Je nommerai aussi Chopin et Berlioz comme de grands compositeurs du romantique. La musique romantique termine en 1900, mais en 1899, c'est important de mentionner qu'il y a le ragtime, qui est un peu la musique de saloon, qui s'amène avec Scott Joplin, qui lui propose justement ce genre très rythmé, pianoté, différent de la musique classique qui était là avant. On pense à Fats Walker ou à Blind Blake, qui étaient des grands joueurs de ragtime. 4 ans plus tard, en 1903, le blues apparaît, est popularisé plutôt. W.C. Handy amène ce style un peu plus africain et spirituel qu'il entend dans une gare de train, ne fait que le transporter au public et le popularise. On pense à Muddy Waters ou à B.B. King, comme de grands artistes du blues. Un an plus tard, presque en même temps, le jazz apparaît lui aussi. Donc c'est très, 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 très fertile, évidemment. Et là, on est en Amérique, on est aux États-Unis. Buddy Bolden fusionne le blues, qui vient un an plus tôt, et le ragtime, qui était 5 ans plus tôt, pour donner naissance au style jazz. On pense à John Coltrane, à Charles Mingus ou à Miles Davis, comme de grands jazzmen. On arrive en 1920 et le country apparaît, qui est originaire des montagnes Appalaches et qui descend jusqu'au sud des États-Unis. Willie Nelson, Johnny Cash, George Strait sont tous de grands artistes de ce country-là. 1923, pardon, 3 ans plus tard, le folk blues apparaît. 1930, le swing. De grands groupes avec des vocaux multiples, du feel-good music, il apparaît. Frank Sinatra, Duke Ellington sont de grands artistes de ce style. 1940, le R&B, rhythm and blues avec des beats forts. La soul music, qui est beaucoup influencée par le blues. On pense à Marvin Gaye ou à Stevie Wonder. 10 ans plus tard, en 1950, c'est l'apparition du rock, qui lui mixe blues, jazz, country entre autres. Et créer une culture musicale très focussée sur la guitare et la jeunesse, la créativité. On pense aux Beatles, à Pink Floyd, à Led Zeppelin, aux Beach Boys, que j'inclus les Beach Boys, même s'ils définissent aussi le pop qui suit juste après. En même temps, comme je le disais, la musique pop émerge en 1950, en réponse au rock plus grossier, propose une formule un peu plus carrée. Michael Jackson, Prince, David Bowie, même Elvis Presley marquent ce style-là, évidemment. En 1960, le folk revient. Mais c'est le retour du folk blues dans un corps plus mature, plus ouvert sur le monde et dans le style singer-songwriter moderne. On pense à des artistes comme Bob Dylan ou Nick Drake qui ont vraiment marqué ce style-là. En 1970, c'est le metal qui arrive, avec Black Sabbath, Metallica. Un rock intense, plus orchestral et mathématique. Mais l'électro arrive aussi en même temps, avec des artistes comme Kraftwerk ou Brian Eno, qui utilisent les nouvelles technologies synthétiques et le sampling. On utilise des vieilles chansons, on les tourne, on change la sonorité, on change la cadence, on brasse vraiment la soupe. Et le hip-hop apparaît aussi, les racines du hip-hop sont également en 1970. Hein. On réfléchit, on pense à The Notorious B.I.G., à Wu-Tang Clan, comme de grands artistes hip-hop, dans la tradition plus old-school, qui mixe R&B, funk, disco et beaucoup d'autres genres plus minimes apparaissent tous aussi. En 1974, c'est le punk qui, lui, se rebelle plus que le rock, avec des instrumentations minimales, des chansons plus courtes. On est plus rebelle. On pense au Clash, aux Ramones. 1980, l'indie naît avec le mouvement punk qui tend à s'autoproduire au lieu de signer avec des gros labels. Engendre aussi le grunge, le post-punk, quand on pense à Nirvana ou à Joy Division, puis donne naissance à l'alternative moderne qui est encore extrêmement populaire aujourd'hui. Radiohead, Weezer ou The Killers sont tous des groupes un peu plus alternatifs. Donc on fait un immense survol très rapidement, évidemment. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le marché est dominé par le hip-hop, la musique pop moderne et l'indie slash alternatif, qui est un genre ouvert et qui englobe pas mal tout le reste, qui ne rentre pas dans les étiquettes pop et hip-hop. Donc, il y a certainement beaucoup de sous-styles et de nuances que je ne peux pas couvrir aussi rapidement. C'est un regard généraliste pour donner une idée pertinente de la musique et de son parcours. Mais parlons de cette musique d'aujourd'hui que je viens de mentionner. On comprend peut-être que les genres populaires sont au service des gens et de l'époque, hein, toujours. Ils ne sont pas là pour absolument rien. Il y a toujours des raisons qui justifient la présence de certains styles dans une époque donnée. Et pour les années 2000-2010, quoique c'est évidemment toujours en mouvement, hein, On comprend que la musique pop offre encore des chansons légères, simples, efficaces. Que l'hip-hop, lui, agit peut-être comme un punk d'antan. Vibrant, urbain, comme un catalyseur musical de la jeunesse moderne. Et que l'alternatif, lui, s'occupe du reste, offre une profondeur de sous-genre pour tous les goûts et aussi un souci artistique notoire. Ça me semble évident. Je me pose peut-être aussi la question à savoir pourquoi cette musique classique-là est-elle restée, est-elle aussi encore présente dans les films ou comme musique plus calmante ou même appréciée en pleine grandeur, pourquoi est-elle encore là? Même si elle est plus vieille que certains styles qui sont beaucoup moins populaires aujourd'hui. On pense au jazz, au punk, au ragtime qui ont certainement plus de difficultés et ont un créneau plus petit de fans, disons. Pour moi, le classique est purement musical. Il y a un respect profond de l'instrument et des fondations de la musique. L'offre est très variée. Comme on l'a vu, il y a trois sous-genres dans ce classique-là avec un nombre immense d'artistes. On a des pièces avec et sans paroles aussi. Donc, je disais purement musical, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des opéras aussi dans le classique qui ont été faits. Donc, l'offre est quand même variée aussi de ce niveau-là. On réfléchit aux soucis des compositeurs qui ne faisaient qu'orchestrer des partitions. C'était leur seule vocation. Il n'y a pas autant de compromis entre l'écriture et la prestation comme aujourd'hui, évidemment. L'artiste qui écrit, produit en studio, va live. Là, on pense à des compositeurs qui sont seuls et focus vraiment sur la partition pure et le choix de l'instrument et le volume. C'est vraiment, là, je crois, peut-être la richesse du classique. C'est instrumentalement, donc, en réponse, très puissant et maîtrisé. C'est une offre sonore qui est difficile à nier, selon moi. Mais malgré tout, pour certains, c'est vu comme du surfait, du pompeux et peut-être un peu froid, hein, avec ce manque de vocal-là et ces instruments acoustiques si puissants. Et je le comprends. C'est sûr qu'il y a une prétention claire qui est ressentie lorsqu'on écoute la musique classique. Mais elle est là pour une raison, cette prétention-là. Il y a une maîtrise derrière, il y a une confiance, un swagger indéniable. Donc, à mon avis, la musique classique reste pertinente pour toutes les bonnes raisons énoncées malgré ça et a quand même sa place dans la société moderne. Mais cette musique classique-là est peut-être difficile à décortiquer pour le nouveau qui veut entrer. Parlons des types de compositions à l'intérieur du genre même. Parce que comment est-ce qu'on entre dans la musique classique? Lorsqu'on essaie, on se rend compte qu'il y a tellement de choix. Il y a beaucoup d'interprétations par différents orchestres, beaucoup de pièces éparpillées pour chaque artiste. C'est aussi moins disponible peut-être et plus difficile à percer parce qu'on la retrouve beaucoup dans la culture, on la retrouve beaucoup dans la culture moderne que comme une musique de fond parce qu'elle donne un sens à tout ce à quoi on la pose. On écoute un film, il y a énormément de musique classique qui est utilisée parce que c'est un raccourci, pas facile, mais certainement un raccourci pour amener l'émotion dans une pièce artistique X. Il y a aussi plusieurs styles de composition, comme je l'ai dit. On pense à l'opéra que j'ai mentionné, qui est une pièce chantée par un soliste qui est accompagné d'un orchestre. Donc en voilà un type. Ensuite, on a la sonate, qui est une composition dédiée pour environ 2 à 3 instruments, qui est composée généralement de 3 à 4 mouvements. C'est très classiste, le classique, évidemment. Beaucoup de conventions. Le concerto, lui, est une composition dans laquelle un soliste, un instrument, un musicien qui est seul, dialogue avec l'orchestre. Donc, un échange entre le soliste et l'orchestre. Une conversation, si on veut. Et le concerto est composé généralement de 3 mouvements. La symphonie, elle, est une composition conçue pour être jouée par un orchestre, qui est un ensemble d'instruments réunis pour l'exécution d'une œuvre musicale donnée. Et il y a plusieurs mouvements dans les symphonies aussi. Et les mouvements, eux, sont très simples, ne sont que des parties séparées d'une même composition. Ils ont des saveurs différentes, et ensemble s'unissent pour donner lieu à une création classique complète. Allons en musique avec un concerto de Tchaïkovski. Je rappelle concerto, composition dans laquelle un soliste va dialoguer avec l'orchestre. 3-4 mouvements, évidemment. Et ça me semble capital de présenter une classique sans la prétention habituelle, juste de la montrer dans sa beauté. pour voir cet angle supplémentaire qu'on peut apposer à la composition musicale humaine. Et avant d'y aller, j'aimerais peut-être vous proposer une anecdote au sujet de ce concerto qui pousse à la réflexion, selon moi, sur peut-être la confiance qu'on se doit de porter pour soi-même. Il faut savoir d'emblée que Tchaïkovski avait écrit la pièce pour un certain Arthur Rubinstein, qui est un grand pianiste hongrois, et que Tchaïkovski l'appréciait évidemment profondément. Tchaïkovski nous décrit dans une de ses lettres la réaction de Rubinstein lorsqu'il a écouté le concerto pour la première fois, et je le cite. C'était la veille de Noël 1874. Je jouais le premier mouvement. Pas un mot, pas une observation. À dire vrai, je ne sollicitais pas un verdict sur la valeur musicale de mon concerto, mais un avis sur ma technique pianistique. Or, le silence de Rubinstein était lourd de signification. Comment voulez-vous, mon cher, semblait-il vouloir dire, que je fasse attention à des détails alors que votre musique me répugne dans son ensemble? Je m'armai de patience et jouai la partition jusqu'au bout. Un silence. Je me lève. Eh bien, demandai-je. Courtois et calme au début, Rubinstein devient bientôt une sorte de Jupiter tonnant. Mon concerto n'avait aucune valeur, était injouable. Deux ou trois pages à la rigueur pouvaient être sauvées. Quant au reste, il fallait le mettre au panier ou le refaire d'un bout à l'autre. Je n'y changerai pas une note, répliquai-je, et le ferai graver comme il est. C'est ce que je fis. C'était Piotr Ilyich Tchaïkovski avec son concerto de piano numéro 1, une toute petite partie du premier mouvement, qui a été composé entre 1874 et 1875, révisé deux fois quelques années plus tard, et c'est interprété par l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg en 2004. Le mouvement intégral dure une vingtaine de minutes. Les deux autres mouvements du concerto rajoutent une quinzaine de minutes, donc. C'est un tour de force du russe, reconnu comme un des grands du mouvement romantique, que je rappelle, du 19e siècle. Une connaissance puissante de la beauté, des mélodies qui portent et pèsent. Je suis qu'un néophyte dans la sphère musicale classique, mais force est de reconnaître que nous gardons dans notre culture un espace privilégié pour ces compositions pures, sans entrave, qui portent l'émotion et la grandeur sur leur cœur, sans peur d'être trop à l'eau de rose et qui embrassent la vie avec une intensité sans compromis. Voilà pourquoi la musique classique nous parle encore, selon moi, lorsqu'on lui donne l'espace et l'attention qu'elle peut parfois requérir. C'est beaucoup plus qu'une musique de fond qu'on utilise pour se calmer ou une trame de film. Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninov, Claude Debussy ou Franz Liszt sont tout aussi des incontournables dans ce style romantique plus pleureur et libre des conventions classistes. Ils sont tous des bons points d'entrée séduisants dans le monde du classique, selon moi. Le romantique est la façon la plus nette et la plus simple d'entrer dans peut-être cette densité un peu épeurante. Et pour ce qui est de Tchaïkovski, je vous inviterai à jeter un coup d'œil vers sa 6e symphonie qui est absolument sublime. Lorsqu'on parle de musique, on en vient peut-être à considérer celui qui écoute et celui qui crée. Nous traiterons des deux. Et pour commencer, j'aimerais traiter de la question suivante. Pourquoi faire de la musique? Pourquoi être créateur musicien dans ce style artistique? Évidemment, on comprend l'importance d'aborder non seulement cet art, mais l'art en général. L'art amène la subjectivité profonde qui nous habite, sans peur de s'affirmer, et offre matière à réfléchir, propose des couleurs, des textures, des saveurs simplement humaines. La musique, elle, le fait par l'entremise d'un processus en deux temps, l'instrumentalisation et la voix. Et unir ces deux éléments naturels génère un art qui est évocateur, qui suscite l'imagination en proposant doucement, qui séduit sans effort, tout en offrant peut-être une plateforme orale pour ajouter du relief supplémentaire et parfaire l'offre subjective, opinionnée, propre à l'homme. Et pour toucher intimement à tout cela, on peut en venir soi-même à vouloir créer, peut-être, et je l'espère, et engendrer cette forme d'art-là pour personnaliser et approfondir sa relation avec la musique, participer. On veut aussi créer de la beauté en tant qu'être humain. Mais avec la musique, c'est fait à travers la mélodie et l'harmonie. Mais on veut tout de même participer à cette génération de beauté-là, qu'on cherche tous à accumuler, à cultiver, parce qu'elle nous plaît et nous fascine. Je ne parle pas de la beauté ostentatoire non plus, mais la beauté pure du son, de la mélodie qui clique et qui s'accroche à notre esprit. On veut peut-être aussi se rapprocher de notre voix et d'utiliser notre voix au sens propre, l'instrument premier, instinctuel. Donc on se rapproche du soi sans faire semblant lorsqu'on utilise sa voix, on se cache, on ne peut se cacher derrière rien. Chanter, se montrer dans une vulnérabilité profonde, sans artifice. Apprivoiser qui nous sommes, notre vraie voix, chanter, parler, souffler ou même crier, ça n'a pas d'importance. Ça reste un plongeon difficile, certes, mais ça permet une intégrité profonde alors qu'on ne se cache que derrière soi. On utilise directement ce qu'on a, sans artifice. À travers notre voix, transparaît ce que nous sommes, hein? L'émotion qu'on dégage, notre débit, l'intonation, notre façon de chanter. Ça, c'est clair que ça parle de notre identité. Ça parle pour nous, d'une certaine façon. On a tous peut-être cette peur de mal chanter et de sonner faux. Mais il faut trouver sa vraie voix et pas juste imiter ce qu'on entend, parce que j'ai souvent l'impression que les gens tentent de chanter en imitant et se rendent compte que leur voix est fausse, mais c'est peut-être à cause d'une tentative d'imitation, là, de juste embracer, pardonner l'anglicisme, la voix qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire avec. Et quand j'entends une reprise de chanson, donc un cover, je veux pas entendre quelqu'un qui imite au meilleur de ses capacités l'artiste original. Je veux entendre le take subjectif de l'artiste qui transforme à sa façon l'original, qui la fait avancer à sa manière. Donc, en tant qu'artiste, il ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là du cover. On transitionne hors des covers. Pendant l'apprentissage, on utilise le matériel qu'on aime et on copie pour apprendre. Mais peut-être pour ensuite vouloir aller vers l'écriture personnelle. Et j'en ai parlé avec mon père dans cette discussion-là qu'on avait eue. Et ça semblait être un processus naturel, non seulement pour lui, mais qui me semblait aussi naturel. Parce qu'on veut personnaliser le processus. On veut se l'accaparer pour soi, pas le faire pour les autres ou pour imiter. On a aussi l'opportunité sublime de composer des paroles et de construire du sens verbal. On peut écrire des textes avec la musique. Il y a des choix stylistiques nombreux qui s'offrent à nous. Des approches multiples, des émotions à livrer, des émotions à ne pas livrer peut-être, mais on ne veut pas se cacher derrière la simple interprétation. On veut écrire pour soi, à partir de soi. On s'approprie qui on est et on le fait en mariant sens avec musicalité infinie et sensible. Et ça, ça offre la liberté totale au musicien, à l'artiste. C'est certainement pas négligé. Et c'est pas accessible pour ceux, selon moi, qui ne participent pas à ce processus d'engendrement-là. On a aussi, évidemment, l'opportunité, la possibilité d'explorer la créativité humaine et sa créativité, qui est la facette de l'humanité qui me semble la plus vibrante, selon moi. Créer, c'est être soi-même sans peur, dans l'offrande, dans l'acceptation totale de la condition humaine, de notre condition, mais aussi de l'opportunité qui s'offre à nous de générer notre propre meaning. Et à travers l'arrangement musical, la recherche du soi sonore et verbal, ça, c'est certainement une formule très attrayante, foncièrement belle et plaisante pour les sens aussi, qui va de soi. Il y a la technicalité aussi qui peut venir nous attirer dans cet apprentissage de l'instrument-là pour faire de la musique. Le défi musical est complexe. N'allez pas croire que c'est une petite course d'un kilomètre. Il n'y a pas de raccourci. Il faut maîtriser le contenant avant de pouvoir façonner du contenu, donc maîtriser l'instrument musical. Et ça, c'est des milliers d'heures pour pouvoir faire bon usage des outils même qui permettent de jouer la musique. Et c'est non seulement un test de difficulté, de rigueur, de concentration, d'écoute et de constance pour juste arriver à la case départ créative. Et là, ensuite, on peut explorer, inventer, assembler, concevoir et participer artistiquement. On veut aussi peut-être apprendre les outils électroniques qui sont disponibles. De nos jours, l'accessibilité à la création, à l'enregistrement musical est sans pareil, est exceptionnelle. À l'époque, pour avoir accès aux technologies d'enregistrement, il fallait payer des milliers de dollars et se déplacer dans des conditions professionnelles pour se faire connaître et pour juste pouvoir enregistrer notre pièce de musique d'une manière écoutable. Aujourd'hui, on peut le faire dans le confort de chez soi et dans la maîtrise et le contrôle. Mais pour ça, il faut aussi apprivoiser les logiciels et le matériel technologique pour contrôler le son, pour arriver au résultat désiré. Il y a un apprentissage dans ça aussi. C'est encore beaucoup d'heures à mettre pour maîtriser et avoir soi-même en main tout le contrôle sur l'art. Mais c'est attrayant ça aussi. C'est une profondeur d'apprentissage qui n'arrête jamais, qui récompense à long terme et qui développe des atouts créatifs qu'on ne peut pas oublier. Il y a aussi le défi idéologique lorsqu'on veut concevoir des projets qui tiennent l'épreuve du temps. On se pose des questions telles que, je ne sais pas, combien de chansons on veut sur un projet? Quelle direction est-ce qu'on veut prendre? On réfléchit au cover art. Est-ce qu'on se limite? Est-ce qu'il ne faut pas filtrer certaines des chansons pour avoir que du matériel singulier pur? Donc sélectionner, supprimer des chansons qui viennent du cœur juste pour le projet, pour l'idée. Est-ce qu'on veut faire un album? Est-ce qu'on veut faire un épilogue qui est plus court? Est-ce qu'on veut faire un projet concept qui a une trame derrière? Mais ensuite, est-ce qu'on veut prendre une nouvelle direction, se défier, constamment à changer, pas rester statique? On veut peut-être se métamorphoser, mais peut-être qu'on maîtrise un style et on veut rester et explorer le style un peu plus loin. Toutes des questions pertinentes. Mais avec le temps aussi, on a des nouvelles influences qui s'amènent. Est-ce qu'on les ajoute à notre création? Donc, il y a tellement d'angles à considérer. C'est un défi riche et qui force à voir qui on est pour de vrai. Le projet qu'on pond après des mois et des années de travail, si on le fait avec intégrité, parle de nous et on ne peut pas faire semblant que ça ne vient pas de nous. C'est foncièrement personnel. À travers la musique aussi, il y a cette possibilité de collaborer avec d'autres personnes. C'est pas juste un processus de solitude. On travaille avec des nouveaux producteurs, peut-être, qui viennent nous aider si on veut aller en studio et qui poussent notre vision et nous challenge. On s'inspire des autres, comme je l'ai dit, mais on raffine notre contribution, on s'autocritique, on s'ajuste avec le temps, peut-être. On voit sa propre saveur se transformer devant nos yeux avec le temps, en côtoyant les autres créateurs qui maîtrisent aussi l'art. On s'inspire de tout ce qu'il y a autour. Et ce dynamisme-là intéressant est un mouvement perpétuel. C'est aussi intéressant de partager avec le public. On donne de soi, on ne fait pas semblant. On propose une vision sonore artistique qui nous est propre. Donc, une contribution avec les autres. On partage, on engendre le progrès qu'on souhaite voir soi-même et on le donne au public et lui, il l'accepte et l'apprécie, le critique, l'analyse, l'intègre à sa vie. C'est un partage très humain, très beau. On a aussi cette opportunité d'apprivoiser le son pur. C'est important de maîtriser ses propres cinq sens pour un vivant sensoriel. Et la musique est la forme la plus distinguée que nous ayons pour le faire avec Louis. La musique ne fait pas dans le visuel frappant. Ça se passe dans la tête. C'est une expérience qui est très proche et personnelle. Il y a des mécanismes sonores naturellement qui plaisent et qui nous transportent. Mais il faut les apprivoiser, il faut les connaître. Il faut comprendre cette forme artistique puissante-là. Il ne faut pas non plus oublier comment on conçoit la musique. On est au premier rang, on s'implique. On décide de s'impliquer au lieu d'être sur les côtés, sur le sideline avec la foule qui regarde et qui paye pour un billet. On est le joueur au centre du terrain. On est aussi en communion peut-être avec soi dans ce processus créatif-là. On est soi, point. Et si le musical nous parle en tant qu'individu, il ne faut pas l'éviter par peur de se mouiller. Il faut se connaître à travers, voir l'opportunité, comme je l'ai dit. La création est une forme de méditation qui nous rapproche de nous-mêmes. On se concentre sur soi, sur ce qu'on est, et on apprend. Et on en vient à matérialiser l'art à travers l'émotion et le mélodieux, ce qui a trait à la musique. Ce sont des éléments très importants, très intéressants à manipuler. Et on pousse l'art à notre façon, lorsqu'on est artiste, musicien. On participe à ce constant mouvement-là que j'ai énoncé. La seule vraie création subjective, le seul apport personnel propre à l'homme, c'est l'art. La musique fait partie de l'art. La science, elle, est exceptionnelle, mais pousse l'humanité avec une main froide, stable et nécessaire. En revanche, l'artiste se pousse et son honnêteté et son intégrité convainc et transforme le monde avec style et philosophie. Donc, pourquoi faire de la musique? Ça me semble être un incontournable de l'expérience humaine pour toutes ces raisons et plus. On devrait tous s'y mettre si ça nous intéresse et se donner les outils pour donner vie à notre identité sonore, une facette de plus à explorer. C'est un bel apprentissage, c'est un défi important pour accéder à un langage qui est très personnel à l'être humain, qui lui est propre comme on l'a vu. On veut s'exprimer en finesse, dans le son subtil et avec style.
So, Southside, round 91st and Cottage Grove. I done seen a lot of failure, still I found myself a lot of goals. YCA was where I found myself, I started using lead to harness gold. Way easier to smile, let your local hating ass nigga know. Earning patience fast, sipping slow. All this water in me, I've been waterbending on the southern side of the goal. I got martyrs with me, ship is charter, we've been on a mission. Low-key expedition, using intuition, losing inhibitions just to give her only inches through the door. To put you on some shit you didn't know. This ain't no posing shit, on some Moses shit, you can see it swimming through the flow. She got done told you this, but gotta show you this. You know, actions do a little more. I quit the fantasies and started planting seeds, trying to usher in a little growth. My nigga, we've been on our way up. I won't say a layup, but love is easier than what they show. You should know. And they be asking, what do love got to do with the point? It's the soothe in your water, it's the truth in your joint. All that gold is overrated. What do you do with your coin? We gon' try to spread some love with it. Spread some love, we gon' try to spread some love. Ain't nobody got to know. Buying water by the jug, I'm the plug. What you want, what you need, not that hate. If you hate a nigga, don't. Nah. Spread love, spread love, spread love. Spread love, spread love, spread love. Spread love, spread love, spread love. We gon' try to spread some love, ain't nobody got to know. Buying water by the jug, I'm the plug. What you want, what you need, not that hate. If you hate a nigga, don't. Nah. Spread love, spread love. Spread love, spread love, spread love, spread love.
So what a nigga really got to say to me, huh? C'était Mick Jenkins avec Spread Love de l'album The Healing Component, paru en 2016. Et voilà une autre belle démonstration de cette diversité musicale exceptionnelle qu'on a. Et de la progression générale, de la musique en style aussi. Il y a un mouvement qu'on peut certainement voir, entrevoir du moins. Quelque chose de plus net, un peu plus léger, clair, pour terminer en musique. C'est une version sweet de cette nouvelle vague de hip-hop aussi que je vous présente, qui est en pleine mélodie et beauté. Le hip-hop plus rude des 90s laisse place tranquillement à un mouvement plus moody, romantique même et smooth. On retrouve des sonorités R&B, souvent mais encore avec des textes pertinents, jeunes, pleins de vie. Il y a peut-être un manque de constance dans les projets de Mick Jenkins, mais je vois que les intentions sont là. C'est un artiste à surveiller, il est encore très jeune, 26 ans. Mais sa philosophie musicale me semble juste, son apport honnête, puis porteuse d'un feel laid-back qu'on a parfois besoin juste pour décompresser, se laisser tomber dans une musicalité simple et claire, comme je l'ai dit. On a vu pourquoi, peut-être, faire de la musique et participer. En revanche, pourquoi est-ce qu'on l'écoute, cette musique-là? Pourquoi se plaçons-nous dans la chaise de l'auditeur à chaque jour ou presque, et qu'on laisse la musique nous accompagner dans toutes nos épreuves et toute notre réalité? Quelles sont les raisons qui nous poussent? Mais évidemment, on en vient à comprendre et à voir principalement et premièrement qu'on apprécie la sonorité pure qui plaît. Ce qui nous attire premièrement de la musique, il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'on est là par souci de beauté et d'ordre dans la musicalité, dans la sonorité. Et avant de creuser, on se laisse toujours porter par le son. Ça, c'est immanquable. Je dirais aussi qu'il y a une synchronicité du vivant avec le survivant, avec l'écoute de la musique. C'est intemporel. Le temps se transforme lors de l'écoute, se fusionne avec nous, l'être vivant. C'est une expérience si puissante qu'elle change le temps, notre perception du temps. Transforme complètement cette perception-là. Il y a une communion entre le présent qui défile de nos vies et l'intemporel enregistré qu'on écoute, figé dans le temps, mais qui nous suit, malgré tout. On veut s'inspirer aussi en écoutant la musique. On absorbe, on apprend avec cet art. On puise dans l'art qui nous parle en général en tant qu'être humain. Et pour la musique, on écoute ce que la pièce nous suscite, et on apprend, et on acquiert ce savoir quant à ce que nos goûts sont et ce qu'ils révèlent sur nous peut-être, sur notre identité. Mais non seulement on s'inspire, mais on veut aussi puiser dans l'émotion brute. On se laisse glisser dans l'expérience émotive, on se laisse prendre au jeu. C'est subjectif et c'est très personnel, évidemment. Mais on apprécie tout de même ce que la musique fait surgir et engendre. Ça nous bouge profondément, c'est indéniable, et ça nous bouge tout d'une manière différente aussi. C'est ce qui est exceptionnel. On est certainement aussi dans cette recherche du grandiose, parfois, hein, du masterpiece. On le recherche. Les pièces musicales, les artistes qui vont nous suivre, les albums qui vont nous suivre toute notre vie, souvent on est capable de les reconnaître assez facilement. On recherche ce grandiose-là pour avoir une stabilité. Mais on recherche aussi l'adéquat. On recherche les pièces qui ne suivront peut-être pas toutes nos vies, mais qui font certainement le travail en ce moment. On les traite comme adéquates, on les respecte. Et on bougera et on changera de projet musical ou d'écoute musicale lorsque le temps viendra. Mais on recherche autant du grandiose que de l'adéquat. Les deux vont ensemble. On ne peut pas que écouter des chefs-d'œuvre denses et profonds où autant qu'on ne peut pas écouter la musique simple et penser avoir une compréhension musicale profonde, nécessaire. On repousse aussi nos barrières sensorielles constamment en écoutant de la musique. Hein. Toujours en recherche de nouvelles musiques, de styles, d'artistes, on se doit d'accueillir la nouveauté, de raffiner ses goûts parce que l'opportunité est là. En tant qu'auditeur de musique, la variété et l'offre est très présente et très riche. On recherche aussi cette stimulation-là que la musique a en nous. On peut analyser les styles, les choix musicaux. C'est stimulant de manière intellectuelle. On peut voir la teneur des textes, l'évolution artistique d'un artiste. C'est vraiment pour l'intellectuel en soi aussi qu'on peut écouter la musique et la décortiquer. C'est une autre facette qu'on peut accepter. Notre cerveau aussi apprécie grandement la musique à un niveau chimique. Il se fusionne avec le mouvement musical et s'accroche à la mélodie, ça c'est clair. Il apprécie, se laisse porter, essaie d'anticiper ce qui s'en vient parfois et tente d'assembler des pièces d'un casse-tête, d'un dynamisme sans pareil. C'est vraiment un beau projet pour notre cerveau que d'écouter une pièce musicale et de porter une attention à 100%. Mais il y a beaucoup d'études qui portent sur les bienfaits de la musique, évidemment. Et on peut comprendre que ça apporte une santé au développement du cerveau, non seulement, mais au maintien aussi d'un cerveau actif. On pense au gyrus temporal supérieur qui, lui, est extrêmement dédié à l'écoute de la musique. C'est vraiment, dans notre biologie, c'est présent. La musique fonctionne aussi comme un calmant, comme un excitant, bon, dépendamment de ce qu'on veut en retirer. Elle peut vraiment nous stimuler dans toutes ces directions-là, plus chimiques, plus émotives. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on semble aussi plus ou moins entendre et accrocher sur les mêmes éléments d'une pièce quelconque. On a peut-être l'impression parfois d'un individu à l'autre, on n'a peut-être pas la même perception et la même écoute sur une pièce. Et peut-être qu'un individu entend de différents éléments ressortent beaucoup d'une musique comparée à un autre individu, mais en règle générale, c'est assez similaire d'un individu à l'autre. Évidemment, il y a des divergences un peu, mais en moyenne, on retient quand même les mêmes éléments d'une pièce musicale. Donc, elle nous rapproche, la musique nous unit. Malgré nos différences personnelles, si c'est ce qu'on peut en retirer, on la voit de la même façon, peut-être, d'une certaine manière. On pense à des milliers de personnes qui se rassemblent contre leur instinct dans une salle pour écouter le même artiste, dans le but final, vraiment, d'aller chercher cette puissance musicale-là. Et on voit qu'elle plaît à notre cerveau sans limite. On trouve aussi confort dans une musique qui nous parle. Ça nous offre une stabilité, ça c'est clair. Mais on a aussi une ouverture sur autre chose. Je parlais de musique d'autres cultures plutôt, d'autres styles, d'autres perceptions musicales, artistiques, et ça ouvre nos horizons lorsqu'on se laisse prendre au jeu. Donc on a le confort, mais on a aussi cette opportunité de s'ouvrir et d'être confortable, mais avec une vue dans une fenêtre absolument immense sur le monde. Et puisque la musique nous assemble comme ça et qu'on l'écoute de la même manière ou presque, ça nous permet de partager avec les autres et de se définir avec l'autre, à travers nos goûts, et de comprendre l'autre à travers ses goûts. Parce que tous deux, on peut apprécier la variété absolument incroyable. Et notre capacité à apprécier une palette musicale très colorée, très, très diverse. On n'a pas à se limiter à un ou deux styles. On peut se retrouver et se reconnaître dans plusieurs styles, dans plusieurs moods, dans plusieurs émotions, dans plusieurs tempos, mélodies, etc., instruments. On a aussi l'opportunité en tant qu'auditeur de musique d'avoir deux expériences, deux façons de traiter, de consommer la musique qui sont complètement différentes. On pense au live versus l'album studio un peu plus. La musique prend une forme opposée lorsqu'écoutée en personne ou seul. C'est très dynamique et ça offre beaucoup. Lorsqu'on est devant l'artiste en vrai, c'est complètement différent lorsqu'on est seul avec un casque d'écoute. C'est clair. Et la musique sonne différent aussi. En live, la musique ne sera pas jouée à la perfection. Il y aura peut-être des ajustements, des transformations, des assemblages de chansons différentes. Ces deux expériences diamétralement opposées. C'est encore plus intense, évidemment, d'y être, comme je l'ai dit. Donc, c'est deux belles façons de voir la musique. On a aussi l'opportunité de se concentrer longuement sur nos choix musicaux et sur des pièces musicales denses et de revenir aux mêmes pièces avec le temps. Parce qu'on les apprécie, on comprend leur profondeur, parce qu'on s'y est attardé. Donc, on cultive la concentration et non l'instantané aussi que la musique peut offrir. On peut avoir il y a beaucoup de chansons très simples à capter qui sont des vers d'oreille et qui n'offrent pas grand-chose. Il ne faut pas revenir peut-être à ces chansons-là faciles. On a un terreau plus fertile ailleurs peut-être. Mais avec le temps, en étant un amateur et un consommateur averti, on construit une bibliothèque musicale qui est parfaitement temporelle et propre à nous. Nos goûts changent constamment avec le temps. On se réajuste, on change de bibliothèque. On s'adapte aussi dans notre artisterie. Et à travers ça, on accumule des connaissances et des circonstances artistiques. Ça, c'est plaisant pour l'auditeur qui comprend la profondeur d'un artiste ou d'une composition en s'y attardant, comme je l'ai dit. On comprend donc une part de l'humanité lorsqu'on s'attarde à la musique. On développe aussi des capacités d'analyse, évidemment, avec ces réflexes-là de créativité, de goût artistique. Hein. Ça reflète notre identité, ça parle de l'identitaire, ça commence sur ce qu'on est. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, commence sur ce qu'on est, ce qu'on apprécie, ce qu'on a plus un dédain pour. Ça délimite un peu ce qu'on est, ça c'est clair. On en vient à trouver l'ultime version de notre palais musical à travers cette exploration-là. On a tous un mélange unique d'êtres. Hein? Et ça se reflète aussi dans nos goûts musicaux et artistiques. Il faut se laisser apprécier, aimer, critiquer donc, pour trouver cette version-là. En sachant qu'elle est fluide, finalement. Et je me répète, c'est important de ne pas que s'accrocher à l'immédiat musical. Creuser parce que les masterpieces, entre parenthèses, sont de plusieurs époques. Il faut retourner dans le temps, il faut chercher dans nos époques aussi, creuser un peu plus loin. Il faut vraiment être un débrouillard pour obtenir le plus de notre expérience musicale, surtout à l'ère de l'Internet, et j'y reviendrai. Les grandes œuvres, en revanche, ces masterpieces-là qu'on trouve et qu'on doit trouver, eux nous poussent à nos limites. Ils nous enrichissent vraiment, ils nous challengent et servent bien plus qu'une trame de fond, qui a aussi son utilité, mais limitée. L'œuvre qui survit à l'épreuve du temps, qui vieillit bien, et de tous les changements qui accompagnent cette avancée-là, c'est une œuvre qui est juste, qui est parfaitement son époque, qui parle aux gens de manière universelle. Et il y a cette profondeur-là qui demande une réévaluation et un retour constant pour apprécier, pour voir l'œuvre grandir avec nous, voir de nouvelles choses. Et ce qu'on écoute révèle plein de choses sur nous. Nos couleurs artistiques, on ne peut pas les cacher. Que ce soit des feelings passagers, la colère, la mélancolie, on appose parfois la musique comme un pansement, hein? Comme une trame sonore sur un film, sur notre film. On aime ça parce que ça nous ressemble, ou parce que c'est différent, ou tout juste parce que ça nous parle point à la ligne. On peut comprendre la teneur d'un individu et sa valeur par ses choix artistiques, entre autres. Et s'il ne tient pas la musique à proximité, ça indique un détachement inquiétant avec son humanité. Et la beauté que l'humanité tente d'engendrer, le meaning, ça me semble inquiétant. En bout de ligne, on écoute aussi la musique pour apposer le relief humain absolu sur notre vie qui est parfois muette. La musique est l'une des formes humaines ultimes d'expression et enrichit sans question notre contexte. Pardon. Mais j'ai d'autres questionnements aussi et d'autres visions à proposer. La musique moderne et sa facilité d'accès exceptionnelle maintenant. On pense à Spotify, à YouTube ou à iTunes. L'accès à l'art musical est vraiment meilleur que jamais. C'est probablement l'art le plus disponible avec la télévision. On a Internet aussi avec Bandcamp et Spotify, qui sont des merveilleuses plateformes pour l'artiste émergent pour qu'il se publie lui-même. En plus de se produire lui-même, comme on l'a énoncé plus tôt. Et la beauté dans cette musique moderne-là, c'est que si l'art est valable Et s'il est bien proposé sur les bonnes plateformes, il est trouvable pour le monde. Le monde va le trouver dans ce monde moderne-là. Si l'art est bon, valable, il sera trouvé. J'y crois foncièrement. Mais on pense peut-être aussi au piratage. Hein? Mais le piratage favorise le but ultime de l'artiste qui est d'être écouté. Ça, c'est clair. Ça offre un accès à plusieurs personnes qui n'auraient pas acheté l'album. Et c'est peut-être problématique pour certains en théorie, mais il y a redéfinition de la manière dont les artistes sont rémunérés. Hein. C'est beaucoup à travers les spectacles, les écoutes sur des sites de streaming officiels. C'est moins la vente d'albums. Mais il faut simplement faire attention aussi à ce que les sites de streaming offrent des prix valables pour les petits artistes comme les grands, par pièce écoutée. Mais pour l'auditeur, il peut avoir accès à tout gratuitement et avoir une bibliothèque comme il souhaite sur ordinateur. Hein. C'est peut-être une lame à double tranchant. L'immensité du lecteur MP3 ou de l'ordinateur contre aller choisir l'album physiquement en personne, le respecter et l'écouter profondément parce que la possibilité d'abondance est limitée par le portefeuille, on a certainement un dilemme là qui se présente. Il faut faire attention donc, si on veut télécharger sa musique et choisir attentivement ce qu'on veut, disséquer, écouter pour de vrai. Pour le reste, si on a les fonds, acheter l'album est certainement plus intéressant. Sinon, si on est sur Internet et qu'on ne fait que télécharger, on risque de télécharger donc des centaines d'albums et de même pas les écouter ou leur accorder l'écoute profonde et le respect mérité et souhaitable pour apprécier pleinement les nuances et subtilités. Hein. On risque d'oublier toute cette plateforme-là, toute cette vision-là qu'on doit aborder en tant qu'écouteur. Il y a aussi le débat entre le vinyle et le digital. Il y a beaucoup un retour vers le vinyle. Mais on pense beaucoup au son. Et c'est un gros débat, comme je l'ai dit, mais lorsqu'on recherche, on se rend compte que c'est très similaire de façon sonore, à part peut-être une petite chaleur de plus du côté vinyle, un petit défaut qu'on apprécie à l'oreille, plus chaleureux. Mais ça me semble plutôt être un souhait d'avoir le côté traditionnel et cérémonial, selon moi, que de retourner au vinyle ou au CD. Parce que non seulement c'est plus souhaité d'avoir l'objet physique, hein, on peut construire une collection, avoir en main le projet réel et ne pas le perdre avec le temps, avec les ménages de bibliothèque, mais c'est aussi peut-être plus humain de placer un disque, d'ouvrir le player ou le turntable, de placer le disque sur ça, avoir des colonnes de son massives. C'est plus naturel et ça va dans le sens de se construire une expérience physique lorsqu'on écoute un album. Certainement agréable, ça c'est sûr. Et on diffuse la musique dans un espace vivant au lieu de la diffuser que dans les écouteurs fermés sur la tête. Donc ce serait souhaitable peut-être d'avoir cette expérience physique-là pour tout le monde. Mais comme je l'ai dit, les coûts associés sont plus élevés, c'est pas accessible pour tout le monde dans le présent. Et l'espace pris est à considérer aussi. C'est très dispendieux pour un amoureux de musique d'acheter chaque CD vinyle, de se payer un meuble pour storer le tout, d'avoir un système de son de qualité, de remplacer les colonnes, d'avoir des colonnes, etc. Avec le temps, c'est plus cher hein, de maintenir tout ça. Surtout avec l'avènement du digital qui est vraiment un gros contrepoids. Comme je l'ai dit, c'est pas possible pour tous, mais préférable selon moi. C'est un peu le même combat qu'un vrai livre versus le livre électronique. Je prendrais toujours le livre naturel que je tiens en main avec les pages. C'est plus organique, c'est plus proche d'une vraie activité corporelle et instinctuelle et intellectuelle. Mais si on ne peut pas se permettre le turntable avec les vinyles et le système d'écoute, on peut avoir qu'un simple ordinateur ou un simple MP3, un simple iPhone, un simple cellulaire, et ça coûte moins cher, évidemment, à long terme. Puisqu'on download notre musique, on n'achète pas tout. Bon, on triche un peu, mais on peut avoir une option un peu moins chère, un peu plus légère, qui est quand même d'extrême qualité. Avec 200$ et un CD player quelconque, comme je l'ai dit, ordinateur ou juste un MP3 player, on peut avoir une expérience d'écoute moins dispendieuse, plus serrée dans l'espace, mais excellente tout de même. Peut-être même meilleure parce que le son est plus proche de l'oreille. Et pour moi, la recommandation d'audiophile pour un casque budget qui dure et excelle, c'est le Sony MDR7506, qui est 140$ canadiens environ, qui est un standard en studio, en radio, qui ne teint pas le son, qui offre l'enregistrement comme il a été conçu. Hein, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas avoir trop de bass ou de saveurs de marque dans le casque d'écoute qui fait en sorte que le son est changé, est un peu teinté. On veut le clean, le naturel du son. Donc, Sony MDR7506, c'est certainement à regarder. Pour moi, aussi, une perspective que j'en suis venu à aborder avec la création de l'émission, c'est les copyrights, évidemment. J'adore faire l'usage de musique, ça fait partie de la formule de commenter. C'est une proposition qui me tient vraiment à cœur. Mais il y a une parenthèse à faire sur l'usage de la musique dans des projets X. Il faut s'assurer de respecter l'artiste et de suivre le fair use qui stipule 4 conditions à considérer pour créer avec de la musique sans avoir les droits d'auteur. Évidemment, si on a les droits d'auteur, si on a des milliers de dollars à donner à une compagnie, on peut faire ce qu'on veut de la musique. Il faut savoir qu'il y a des compagnies de disques très voraces qui tentent de supprimer le matériel utilisé. Mais si le créateur est conscient, il fait un usage honnête, il peut combattre les copyright claims qui viennent à gauche et à droite. J'ai à le faire sur YouTube, pas sur les autres plateformes, mais il faut savoir qu'il est possible de construire autour d'art privé, entre parenthèses, et de faire tourner la roue artistique à sa façon si on suit les conditions et on joue by the book. Ça, c'est important pour tous ceux qui veulent créer. Et partager cette musique-là, partager, faire vivre l'art à travers leur création. Ce qui me tient à cœur. Pour finir, il y a une richesse dans les éléments fondamentaux même de la musique. Elle coule si doucement lorsqu'on l'écoute qu'on en vient à oublier la technicalité et l'impressionnante variété de choix stylistiques qui sont à faire lors de l'apprentissage d'un instrument ou de la composition musicale. Et c'est important de considérer, à apprendre aussi et à intégrer dans notre vie cet apprentissage de l'instrument, d'apprendre à jouer des instruments. Pour rajouter une flèche à notre arc expressif, toujours dans le but d'obtenir une justesse subjective pour s'allier à notre objectivité, qui est toujours là. On ne doit pas limiter notre consommation d'art non plus au connu, au safe, au facile, ainsi qu'à l'abordable. Il y a devant nous un monde sans fond de sonorités et de vibes à aller chercher pour se connaître. Ne souhaitons pas être délimitables facilement. Il faut respecter sa complexité dans le style et le goût. On voit aussi que l'univers de la musique est en perpétuelle évolution. Cet univers-là ne demande que le génie du prochain individu, du prochain artiste, du prochain groupe pour pousser un peu plus loin la cause artistique humaine. La musique nous parle directement, à travers nos sens fondamentaux, mais se présente avec une sophistication romantique, drapée de couleurs frappantes et d'émotions vivides. Le changement perpétuel est là, comme je l'ai dit. Mais la musique, elle, reste dans son cœur la même bête qui nous susurre, soupire et rugit à notre aise. L'art musical évoque dans la mélodie sublime, accompagne avec aise et franchit nos barrières égoïstes pour venir susciter un dialogue sans pareil, qui sait aller au-delà des mots et les utiliser pour une conversation intime, veloutée, qui métamorphose et appuie l'être de couleur que nous sommes tous. Merci de votre présence à cet épisode musical, sur la musique plutôt. J'espère que vous avez apprécié. C'est évidemment probablement pas mon dernier épisode sur l'art en général. J'aime le décortiquer, j'aime le prendre pour ce qu'il est, creuser un peu parce qu'il y a une place tellement importante dans nos vies et devrait avoir une place importante dans la vie de tous selon moi, pour cette subjectivité-là qu'il apporte. Entre autres. Évidemment, les plateformes sont les mêmes, que ce soit YouTube, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Google Play, c'est là à votre choix que vous pouvez me retrouver. Pour le reste, on se verra la semaine prochaine pour un autre épisode, et puis je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne fin de journée, tout le tralala, et à la prochaine.